Donc, si vous vous souvenez, notre but cette année, c'était un peu de détailler, d'examiner un peu plus à fond les effets du baptême. Nous en avons vu trois. Et le quatrième effet, qui est dans les mêmes, c'est l'infusion de la grâce sanctifiante, qui elle aussi, donc, peut être empêchée ou différée. Selon les dispositions du sujet. Alors, toujours pareil, bien sûr, chez l'adulte. Alors, c'est ce quatrième effet que nous allons examiner aujourd'hui. Et les deux autres effets, donc, avions-nous dit, d'abord, c'était les obligations qu'implique le baptême, et puis les secours que procure le baptême, c'est-à-dire la question de la grâce sacramentelle, la grâce propre au sacrement de baptême. Donc, le quatrième effet, c'est cette infusion de la grâce sanctifiante. Le baptême, rappelez-vous, nous l'avons dit au début, le baptême, il y a ces deux aspects dans le baptême, il y a l'aspect de mort et l'aspect de vie. Le baptême est d'abord immersion, avions-nous dit, immersion, on est plongé dans la mort du Christ, et c'était tout à fait signifié par le rite primitif du baptême, où le baptisé descendait, dans les fonds baptismaux, là, dans la cuve baptismale, il descendait, il se plongeait dans l'eau, donc il était immergé dans l'eau, donc comme une sorte d'ensevelissement dans la mort du Christ. Et puis ensuite, eh bien, on le retirait de l'eau, donc là, c'était la vie, la naissance, une nouvelle naissance. Donc, immersion et émersion. Donc, le baptême est à la fois mort et résurrection. Le Concile de Trente, qui a défini tout cela avec une précision remarquable. Là, tout est bien synthétisé, notamment le nombre des sacrements. Qu'il y a sept sacrements, c'est deux fois défini. Quelqu'un qui n'admet pas les sept sacrements, il n'est pas catholique. Il n'a pas la foi catholique, en tout cas. Si quelqu'un dit que les sacrements de la loi nouvelle n'ont pas tous été institués par notre Seigneur Jésus-Christ, tout simplement. Bon. Donc, tout cela, les sacrements ont été institués par le Christ. Ou bien, si quelqu'un dit qu'il y en a plus ou moins que sept. Il n'y en a ni plus ni moins, il y en a sept. Ou bien encore que l'un de ces sept n'est pas vraiment et à proprement parler un sacrement, qu'il soit un anathème. Voilà. Donc, si quelqu'un n'admet pas cela, il n'a pas la foi catholique. Si quelqu'un dit que les sacrements de la loi nouvelle, donc le baptême, ne contiennent pas la grâce qu'il signifie, ou qu'il ne confère pas cette grâce à ceux qui n'y mettent pas d'obstacle, etc., etc., comme s'ils étaient seulement des signes extérieurs de la grâce ou de la justice reçue par la foi, ça c'est contre les protestants, ou des marques de profession chrétienne qui permettent aux hommes de distinguer les fidèles des infidèles, qu'ils soient anathèmes. Et ça, et aujourd'hui malheureusement, là aussi, on entend bien des bêtises, hein. Le sacrement, le baptême, eh bien, c'est l'entrée dans la communauté, dans le peuple de Dieu, tout ça. Bon, c'est vrai, c'est aussi cela, mais avant d'être cela, c'est d'abord, eh bien, justement, la rémission du péché originel et l'infusion de la grâce. Et c'est parce qu'on est en état de grâce et parce qu'on est incorporé au Christ qu'on est incorporé à l'Église et qu'on devient donc membre de la communauté chrétienne. Donc c'est tout à fait clair dans l'Évangile, et puis ensuite, bien sûr, l'envoi des apôtres au moment de l'ascension, allez, hein, baptiser toutes les nations, etc. Les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, donc nécessité du baptême. Donc il est deux fois, en tout cas, disions-nous, que le baptême est un des sept sacrements et qu'il produit la grâce. Et saint Thomas d'Aquin, bien sûr, toujours lui, démontre comment s'opère cette... la production de cet effet, donc l'infusion de la grâce, toujours, hein, nous le disions, par l'incorporation au Christ que réalise ce sacrement. C'est pourquoi, je vous le disais, c'est ce qu'il y a de plus radical, de plus fondamental. Hein. D'abord, l'incorporation au Christ. Hein. D'après la doctrine de saint Augustin, dit saint Thomas d'Aquin, le baptême a cet effet que ceux qui le reçoivent sont incorporés au Christ comme ses membres. Voilà. Premier effet, incorporés au Christ comme ses membres. Or, de cette tête qui est le Christ, découle dans tous les membres la plénitude de la grâce et de la vertu. C'est très simple, c'est très logique, oui. Puisqu'on est incorporé au Christ, tout ce qui est dans la tête, eh bien, va découler, va dériver dans tous les membres. Or, le Christ, eh bien, il est plein de grâce. Oui. Et c'est ce que dit saint Jean dans le prologue de son évangile. De sa plénitude, tous nous avons reçu. La plénitude de grâce qui est dans le Christ, eh bien, tous nous avons reçu. Donc, le Christ est plein de grâce et nous qui sommes ses membres, eh bien, nous recevons sa grâce au moment où nous sommes incorporés à son corps. Voilà. Il est donc évident que le baptême donne à l'homme la grâce et les vertus. Et c'est très clair, oui. Il n'y a aucune difficulté. La théologie est très très simple, c'est très facile. Et c'est l'image que prend notre Seigneur au chapitre 15, là, de saint Jean. Saint Jean vous raconte cela. Cette image de la vigne, le cep et les sarments. Je suis la vraie vigne et mon père est le vigneron, etc., etc. Bon. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, de même, vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Voilà ce que nous sommes. Oui. Celui qui demeure en moi et moi en lui porte beaucoup de fruits, mais sans moi, vous ne pouvez rien faire. Oui, cette image donc de la vigne qui est très 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 réelle, hein. C'est plus qu'une image, ça démontre, ça nous manifeste à nous. Vous connaissez un petit peu comme la vigne, vous savez comment ça marche, tout cela, le cep et les sarments. Eh bien, le fait qu'un sarment est greffé sur la vigne, eh bien, ça permet justement à la sève de passer. Et tout ce qui est dans le sarment, dans le cep, va passer dans le sarment. À un moment ou un autre, eh bien. Donc tout ce qui est au cep devient la propriété ou le privilège du sarment. Pourquoi le baptême et le caractère baptismal, c'est le premier privilège du baptisé, c'est la porte, c'est la clé de tout. C'est là qui ouvre la porte à tout le reste. Oui. Le baptême nous soude au Christ, c'est le premier sacrement, et il permet à ce moment-là, à la vie divine, à la vie du Christ, eh bien, de découler en nous, dans notre âme, bien sûr, et même dans notre corps, puisque tout cela a des répercussions hein, dans notre vie, même simplement naturelle. Voici ce que dit encore saint Thomas d'Aquin. Le baptême nous incorpore à la passion et à la mort du Christ. D'où il suit que cette passion à laquelle tous les baptisés participent, oui, par le baptême, nous sommes incorporés à la passion du Christ, et donc cette passion à laquelle tous les baptisés participent est à chacun un remède aussi efficace que lui eussent été ses propres souffrances et sa propre mort. Vous voyez, tout ce qui est au Christ devient à moi. Tout ce que le Christ a fait, eh bien, c'est en quelque sorte comme si c'était moi qui l'avais fait. C'est inimaginable, ça. Et donc, la plénitude de grâce, vous voyez, qui a été accordée au Christ, et même tous les mérites que le Christ a acquis, a obtenus dans sa passion et dans sa mort sur la croix, eh bien, c'est comme si moi-même, je les avais mérités. C'est comme si c'était moi qui les avais mérités, puisque je suis un membre de son corps. Je suis quelque chose de lui. Et comme si moi, ben, ma foi, j'acquiers des vertus, j'acquiers de la santé, j'acquiers des tas de choses, eh bien, c'est tout mon être qui en profite, mes pieds, mes jambes, ma tête, tout le monde en profite en moi. Voilà. Eh bien, pour le Christ, c'est pareil. Tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a pratiqué comme acte de vertu, tout ce qu'il a obtenu comme mérite, eh bien, ce sont tous ses membres. Cela devient la propriété de tous ses membres. Oui. Comme si, donc, nous étions morts nous-mêmes, si nous avions vécu véritablement la passion et la mort du Christ, bien sûr, c'est même encore plus efficace parce qu'il est Dieu, ce que nous ne sommes pas. Donc cela a une efficacité qui dépasse tout ce que nous pouvons nous avoir comme efficacité. Mais bon, cela devient notre privilège à nous. Ouais. Allez, c'est la racine hein, de tous les bienfaits, de tous les fruits. Du baptême, de cette infusion de la grâce sanctifiante. Alors, quels sont ensuite les différents effets de cette grâce sanctifiante? La grâce, donc, nous sommes établis dans la grâce de Dieu, nous recevons la grâce de Dieu. La grâce, eh bien, c'est la vie de Dieu, c'est l'amitié de Dieu, c'est la charité, c'est la vie de Dieu. C'est ça. Il y a corrélation entre la grâce et la charité. La grâce, c'est la charité. La grâce, c'est la vie de Dieu. Nous devenons enfants de Dieu véritablement et précisément. C'est là le premier privilège extraordinaire de cette infusion de la grâce sanctifiante, eh bien, c'est l'adoption divine. C'est ce fait que nous devenons véritablement enfants de Dieu. Alors, c'est sûr, bon, je vais vous en parler un peu, mais je pense que ça méritera que nous y revenions, parce que c'est tellement beau et je crois tellement méconnu. Je crois que ça mérite qu'on approfondisse un peu la question de cette adoption divine. Savoir ce que ça veut dire exactement que le fait que nous soyons enfants de Dieu. C'est inimaginable. Enfin, nous essaierons de voir ça, mais peut-être pas aujourd'hui, la fois prochaine peut-être. Oui. Donc par le baptême, eh bien, nous apparaissons, et même nous sommes réellement, aux yeux de Dieu, aux yeux du Père, revêtus du Christ, qui est baptisé, a revêtu le Christ, dit saint Paul, quicumque enim in Christo baptizati estis Christum induistis. Vous, hein, qui avez été baptisés dans le Christ, vous avez revêtu le Christ. Et c'est un revêtement qui n'est pas simplement extérieur. Attention, ça c'est la conception protestante de la grâce, c'est un vêtement. Oui. Le Christ nous recouvre, le pécheur reste pécheur, mais tout cela est recouvert du manteau, du sang, des mérites du Christ, mais au fond de lui-même, eh bien, le pécheur reste pécheur. Et pour le protestant, il n'y a pas de justification intime, intrinsèque. L'âme n'est pas purifiée. L'âme reste pécheresse, elle reste impure, mais bon, il y a un joli manteau, là, bien propre, ce qui fait que le Père nous regarde, oh, qu'il est joli, ce petit, et il nous aime. Mais je ne sais pas comment ça peut tenir, ça, parce que le bon Dieu, quand même, il n'est pas aveugle. Il peut très bien aller voir ce qu'il y a derrière le manteau. Et si rien n'est effacé, rien n'est purifié, je ne vois pas comment il peut nous aimer. Bon, il peut, bien sûr, mais enfin, d'une autre façon, en tout cas. C'est bien évident, cela. Et oui, qui est baptisé a revêtu le Christ. Et nous sommes tout enveloppés, tout pénétrés par le Christ, plongés en lui, nous l'avons dit, comme identifiés et confondus avec lui. Par le caractère, nous sommes même marqués à l'effigie du Christ. Nous portons sur notre âme le visage du Christ. Et oui, et nous sommes faits donc véritablement à la ressemblance du Christ. Nous l'avions dit cela aussi, je crois, la question de l'image et de la ressemblance. Bon, tout homme porte en lui l'image de Dieu. L'image de Dieu, oui, parce qu'il est esprit. Donc par l'esprit, eh bien, nous sommes image de Dieu. Mais la ressemblance, c'est autre chose. Pour ressembler à Dieu, il faut avoir en nous bien le visage de Dieu. Et le visage de Dieu, c'est le visage du Christ. Voilà. Et donc, il faut que notre âme soit revêtue vraiment, qu'elle porte en elle-même, qu'elle ait imprimé en elle le visage du Christ. Alors là, le Père, oui, quand il nous regarde, il voit son fils, il voit son enfant. Il voit son enfant. Et nous sommes véritablement l'enfant de Dieu, l'enfant du Père. Vous voyez, c'est le baptême, donc, nous met ainsi dans cet état qui est vraiment le plus agréable au cœur du Père. Hein, c'est l'état de Fils. Et donc, le Père, à ce moment-là, prolonge jusqu'à nous son amour paternel. Ouais. Le baptême, en quelque sorte, nous confond avec le Christ, ne fait qu'un entre le Christ et nous. Et à ce moment-là, bien, en réponse, eh bien, le Père également nous confond dans son amour pour son Fils. Voilà. Le même amour dont il aime son Fils. Eh bien, c'est cet amour-là dont il nous aime. Ouais, c'est vrai. Hein? C'est pas des théories, tout ça. C'est des réalités tout à fait concrètes. Hein? C'est des choses qu'il est bon de méditer de temps en temps. Hein? Le Père m'aime autant qu'il aime son Fils. Son Fils Jésus-Christ. Quelle idée, hein? Et pourtant, c'est comme ça. Et pourquoi? Parce que je suis baptisé, c'est tout. C'est pas parce que je suis plus beau que les autres, absolument pas, c'est pas la question, mais simplement parce que je suis baptisé. Allez. Vous êtes enfant de Dieu, dit saint Paul aux Galates. Vous êtes enfant de Dieu en Jésus-Christ. Et aux Éphésiens, il écrit encore, c'est en son Fils bien-aimé que nous sommes devenus dignes de son amour paternel par la grâce. En son Fils bien-aimé. Vous voyez toujours ça, cette incorporation, hein, c'est parce que nous sommes devenus membres du Christ. Ouais. que nous sommes faits enfants de Dieu. Si nous ne sommes pas membres du Christ, nous ne sommes pas enfants de Dieu. C'est autre chose. Hein? C'est en son Fils bien-aimé que nous sommes devenus dignes de son amour paternel par la grâce. C'est dans le Christ, écrit-il encore aux Éphésiens, c'est dans le Christ qu'il nous a comblés de ses bienfaits surnaturels. C'est en lui qu'il nous a choisis, avant même la création du monde, pour être saints, en lui qui nous a prédestinés à être ses fils adoptifs. Dans le Christ, nous avons été tous prédestinés à être les fils adoptifs de Dieu. Alors que nous étions morts à la vie divine par nos péchés, Dieu nous a rendu la vie dans le Christ. Nous étions morts. Même il dit ailleurs, nous étions enfants de colère. Oui, enfants de colère. Et oui, étant dans l'état de péché originel, nous ne pouvons être que sujets de la colère de Dieu. Bien sûr, Dieu n'aime pas le péché, et le péché provoque sa colère. C'est évident, cela. Nous sommes nés donc enfants de colère, et nous sommes devenus par le baptême enfants de sa direction. Quand le Père regarde un baptisé, surtout un nouveau baptisé, bien sûr, avant qu'il n'ait fait quelques bêtises, quelques péchés, il dit la même chose qu'il dit sur son fils: celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toutes mes complaisances. Ouais. Eh oui, filiation, filiation divine. Filiation divine, alors attention, bien sûr, il faut quand même la distinguer de la filiation qui est celle de son fils, Jésus-Christ. C'est une filiation adoptive, disons-nous. Hein. Filiation adoptive, en ce sens, eh bien, qu'elle ne découle pas de la nature même de Dieu comme la filiation du Verbe. Si vous connaissez un peu le mystère de la Sainte Trinité, le Père engendre son Fils de façon nécessaire. Il ne peut pas ne pas engendrer son Fils. Le Verbe est un produit naturel, je dirais, de sa nature. Voyez. Bon, pour nous, c'est différent. Hein. Dieu n'est pas obligé de nous adopter, il n'est pas obligé de nous enfanter à la vie de la grâce, de nous donner sa propre vie, c'est librement, c'est selon le propos, selon le dessein de sa volonté, dit saint Paul, qu'il nous engendre. C'est librement qu'il nous engendre, dit saint Jacques, voluntari nos genuit, c'est volontairement qu'il nous a engendré. Donc c'est une filiation qui est libre de sa part, et qui n'est donc pas naturelle au sens propre du mot, mais qui est libre, qui est volontaire. Dieu pourrait très bien ne pas nous adopter, ne pas faire de nous ses enfants. Et s'il le fait, c'est par pur amour, tout simplement. Justement, c'est là ce privilège confondant, hein, de l'amour de Dieu, cette gratuité. Dieu n'a pas besoin des hommes. Dieu n'a pas besoin de nous pour être heureux. Il y avait un film, il y a longtemps, j'étais jeune, là. Quelques années, 30 ans, 40 ans, je ne sais pas combien, qui disaient « Dieu a besoin des hommes ». Pardon, c'est épouvantable ça. Dieu n'a pas besoin des hommes, absolument pas. Qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse avec nous? C'est au contraire, on fait que des bêtises, nous. Alors ça, c'est... Bon, Dieu veut peut-être avoir besoin de tel ou tel homme, mais ça, c'est librement. Il veut se servir de nous, mais ça, c'est librement. Ça. Il n'est pas du tout obligé de se servir de nous. Dieu n'a pas besoin de nous. Il peut être heureux, et certainement, il est certainement beaucoup plus heureux sans nous qu'avec nous. Quand on voit un peu le pataquès qu'on met sur la terre, dans l'éternité, ce sera autre chose. Ça. Mais enfin, pour l'instant, ce que nous faisons ici-bas, ce n'est pas très, très brillant. Hein. Adoption, donc, disions-nous, mais adoption qu'il faut... Bon, c'est une adoption, mais quand même qui est assez particulière, hein, qu'il faut distinguer des adoptions simplement humaines. Une adoption humaine... Bon, c'est un acte qui est légal, qui est juridique. Quand on adopte un enfant, bon, c'est un acte extérieur qui donne à l'enfant certains privilèges qui sont attachés au nom, à la famille, etc. Très bien. Mais dans une adoption humaine, on ne donne rien, le père ou la mère, les parents ne donnent rien d'eux-mêmes à l'enfant. À part leur nom, peut-être, leur richesse, et tout ce qu'on peut imaginer, très bien, mais... Le père ne communique rien à l'enfant. Bon, il y a un papier qui est signé devant le notaire, etc. Bon, c'est très bien, c'est très beau déjà, mais il n'y a pas de communication de quelque chose vraiment de vital, de personnel au père, ouais, qui n'est pas communiqué donc à l'enfant. Alors que là, l'adoption divine, eh bien, est quand même différente. Ouais. Ce n'est pas une filiation naturelle comme celle du fils du Verbe. Mais ce n'est pas non plus une adoption simplement légale, oui, fictive, un petit peu extérieure, puisque cette adoption divine, met en nous quelque chose de Dieu. Il y a quand même une communication de la vie de Dieu, une participation à sa nature, une semence de Dieu qui est vraiment déposée dans l'âme du baptisé. C'est Saint Jean qui nous le dit. Nous devenons ses enfants, filios dei fieri. C'est ce que nous disons tous les jours à la fin de la messe. Ce prologue de l'évangile de Saint Jean, ceux qui sont nés non pas d'une volonté humaine, non pas de la volonté de la chair, etc. Bon, oui. Nous devenons véritablement ses enfants. Et Saint Jean le dit encore ailleurs. Voyez quelle est la charité que le Père, que Dieu a eue pour nous, pour que nous soyons nommés enfants de Dieu et que nous le soyons. Ut filii Dei nominemur et simus. Non seulement nous sommes nommés enfants de Dieu, mais nous le sommes véritablement. Il y a une transformation de notre être, pas seulement de notre nom, il n'y a pas que le nom qui change, mais c'est notre être lui-même qui est changé. Donc filiation tout à fait spéciale, particulière, unique en son genre, qui est moins qu'une filiation naturelle, mais plus qu'une simple adoption, telles que les adoptions humaines. Le baptême est donc une véritable naissance à la vie surnaturelle, et saint Paul emploie souvent le mot de régénération. Il y a une nouvelle génération. Nous avons été engendrés une première fois à la vie naturelle, à la vie humaine, par nos parents, très bien, et maintenant nous sommes engendrés une régénération, une nouvelle génération à la vie surnaturelle, à la vie de la grâce, à la vie divine. Un bain de régénération, dit-il encore. Un bain de régénération, et notre Seigneur parlait donc de cette naissance de l'eau et de l'Esprit Saint. Donc il n'est pas la naissance naturelle, mais une nouvelle naissance de l'eau et de l'Esprit Saint. Donc nous sommes nés deux fois. Ça c'est clair. Et c'est, bon, nous en reparlerons peut-être si nous fouillons un petit peu cette question-là. Vous voyez, c'est là l'origine de beaucoup de prénoms. On voit ça, bon, et encore aujourd'hui, quand même, il y a des prénoms comme ça qui sont restés, qui voulaient manifester ce fait d'être né à nouveau. René, par exemple. C'est un très joli prénom, René. René, c'était le nom de mon père, en plus. Ouais, c'est parfait, oui. René, ben voilà, mais c'est ça, Renatus, en latin. Celui qui est René. Et nous sommes tous des René. Vous êtes né une fois, vous êtes né une deuxième fois, donc vous êtes tous des René. Renati, eh oui. Ou d'autres prénoms, nous verrons peut-être une autre fois, tous ces prénoms, justement, que les baptisés aimaient prendre, voyez, pour ajouter à leur premier prénom, si l'on veut, ou bien pour remplacer leur prénom civil ou laïque. Voyez. Il nous a sauvés, non pas à cause des œuvres que nous faisons, mais selon sa miséricorde, par le bain de régénération, en nous renouvelant par le Saint-Esprit, qu'il a répandu sur nous largement par Jésus-Christ, etc. Et donc, il y a véritablement une deuxième naissance, renaissance, et donc celui qui administre le baptême est réellement père de celui qui reçoit le baptême. Et oui, il lui donne véritablement la vie, il le fait naître une deuxième fois. Et oui, il l'engendre, si l'on peut dire, à une vie nouvelle. Le père, c'est celui qui communique la vie. Et donc, celui qui donne le baptême à un enfant, à une âme, eh bien, devient son père. Bon, selon l'esprit, bien sûr, paternité spirituelle, paternité dans l'ordre de la grâce, mais paternité tout aussi réelle que la paternité naturelle, la paternité physique. Saint Paul le dit, tout ça, ce n'est pas des inventions. Saint Paul le dit, il se donne lui-même ce titre à l'égard de ceux qu'il a engendrés à la vie de la grâce, de ceux qu'il a baptisés. Vous n'avez pas plusieurs pères, dit-il, puisque c'est moi qui vous ai engendré en Jésus-Christ. Voilà. Saint Paul revendique un peu pour lui le privilège, cette paternité, c'est moi. Vous n'avez qu'un père, c'est moi. C'est moi qui vous ai engendré en Jésus-Christ, bien sûr, en Jésus-Christ. Alors, c'est pas sa vie à lui, Paul, qui l'a donné, c'est la vie de Jésus-Christ, donc il a engendré en Jésus-Christ. Et c'est pourquoi même les pères comparent l'eau baptismale au sein maternel. L'eau baptismale, eh bien, c'est un peu le sein maternel. C'est là, eh bien, que naissent les enfants de Dieu, dans l'eau baptismale. Vous voyez, quelques textes, c'est très beau chez les pères. C'est magnifique, ces pères de l'Église. Il faudrait mieux les connaître. On trouve une fraîcheur, une saveur extraordinaire. Ils n'avaient pas peur d'employer des images qui nous font parfois un peu, ça nous fait un peu peur. On n'oserait plus aujourd'hui employer des images pareilles parce que ça ferait sourire. Et c'est dommage parce que... Ouais. Vous voyez ce que dit saint Augustin, par exemple, en montrant un peu les nouveaux baptisés, les voici ceux qui sont nés de Dieu. Les voici, mais ils sont nés de Dieu. Vulva matris, aqua baptis matis. Vulva matris. À quoi baptise Matisse ? Et le sein maternel, le sein de la mère, eh bien, c'est l'eau baptismale. Et oui. Et Tertullien dit encore, oui, c'est la ressemblance des petits poissons. Nous sommes tous des petits poissons. Les baptisés, c'est des petits poissons. Comme de petits poissons, ressemblant à Jésus-Christ, notre ictoun, notre poisson, nous naissons dans l'eau baptismale. Comme des petits poissons, nous naissons dans l'eau baptismale. Et ce n'est qu'en restant dans cette eau que nous pouvons être sauvés. Et il faut rester dans l'eau. Nous sommes des petits poissons. Alors bien sûr, là, il y a une référence un peu à l'ictus, le poisson. Ouais. Vous savez peut-être que dans les catacombes ou chez les premiers chrétiens, on représentait le Christ par l'image du poisson. Pourquoi l'image du poisson ? Bien, c'est même du grec. Le poisson, en grec, je dis ictus. Ictus, et ictus, eh bien, il y a cinq lettres, et chacune de ces lettres est l'initiale de Jésus Christus Theou Ouios Soter. Jésus-Christ, fils de Dieu, sauveur. C'est du grec, oui. Jésus Christus, bon, Ouios, etc., bon, Ouios, Theou Ouios Soter, ouais, ça fait ictus. Ictus, en grec, ça veut dire poisson. Donc, on représentait, non pas pour se cacher, mais pour signifier, symboliser un petit peu le Christ, vous voyez, eh bien, on dessinait, les chrétiens dessinaient un poisson, ictus. Et nous sommes des petits poissons, voilà. Et le Christ est le gros poisson, si j'ose dire, et nous sommes des petits poissons. Et un poisson, ça vit dans l'eau. Un poisson, ça naît dans l'eau du baptême, et ça doit rester, ça doit vivre dans l'eau pour grandir, grossir, etc. Et il faut donc rester dans l'eau de notre baptême. Et c'est vrai. Bon, tout cela sont des images peut-être, mais il y a des grandes réalités qui sont cachées derrière tout cela. Et oui, notre baptême est une véritable naissance, une nouvelle naissance, naissance à une autre vie, une deuxième vie. Il y a en nous deux vies. Il y a en nous la vie naturelle, bien sûr, qui cessera un jour. Il y a une vie surnaturelle qui, elle, ne doit pas cesser. Et donc, vous disais, celui qui baptise devient véritablement père de l'enfant qui est baptisé. L'eau baptismale est comme le sein maternel, et celui qui baptise, eh bien, est comme le père. C'est pourquoi cela vaut pour, nous le disions l'autre fois, pour les parrains, mais également pour celui qui baptise. Ouais, si un jour, je ne sais pas pourquoi, moi, quelqu'un doit baptiser un enfant comme cela, eh bien, c'est un empêchement au mariage. On ne peut pas épouser quelqu'un dont on est le père, quoi. Bah, ça se fait pas, ça va pas, ça. Eh ben non, ben oui, voilà. Non. La filiation naturelle et la filiation spirituelle ne peuvent pas être mélangées. Voyez, c'est, faut bien distinguer les choses. Voyez. Eh oui. Bon, de toute façon, je crois pas que ça arrive très très souvent. Hein. Enfin. Bon. C'est pourquoi même, oui, mais ça c'est des choses, c'est l'esprit de l'Église, ne pas les mélanger, vous voyez, les filiations, il y a la filiation naturelle, qui n'exclut pas la filiation spirituelle, oui, c'est autre chose, bien sûr, hein, la filiation dans l'amour, dans la vertu, etc., mais la filiation spirituelle, c'est autre chose, vraiment, il y a un lien spirituel qui est créé entre le baptiseur et le baptisé, vous voyez, comme entre le parrain et l'enfant et le filleul, vous voyez. Et il ne convient pas, oui, ben ensuite ben d'épouser quelqu'un dont on était le père spirituel, vous voyez. Bon. Et c'est pourquoi il est mieux, bon, sauf cas de nécessité, bien sûr. Hein, ça, s'il y a une nécessité, il ne faut pas hésiter. Il est mieux, quand il y a un baptême d'urgence à faire, vous voyez, de le faire faire par quelqu'un d'autre que par les parents. Vous voyez, pour ne pas mélanger les filiations, vous voyez. Bon. Si urgence, il n'y a pas de problème, hein, ça, il faut sauver l'enfant, c'est évident. Hein. Donc il vaut mieux que ce soit le père qui donne le baptême que de le laisser mourir sans le baptême. Mais s'il n'y a pas extrême urgence, il vaut mieux faire venir un prêtre, éventuellement, etc., pour lui demander bien, de, de donner lui-même le baptême. Oui. Bon, c'est mieux. En tout cas, c'est l'esprit de l'Église. Oui. De manière à ne pas mélanger les filiations. Voilà donc ce premier effet dont je vous disais, ben nous y reviendrons sans doute, hein, premier effet de la grâce sanctifiante, eh bien c'est donc cette adoption. Nous sommes enfants de Dieu, Dieu est notre Père. Et nous sommes tous enfants de Dieu et nous n'avons tous qu'un seul Père, hein, bon, qui est Dieu. Voilà. Pourquoi nous disons notre Père? Et nous ne disons pas mon Père, nous disons notre Père, hein, parce que c'est le même Père que tous nous avons. Hein. Et nous sommes tous frères et sœurs, bien chers frères, bien chères sœurs, voilà. Bon, voilà. Et oui, mais c'est vrai tout ça. Deuxième bienfait de cette filiation divine, de cette infusion de la grâce sanctifiante, eh bien c'est l'héritage céleste. Et oui, nous sommes enfants. Nous sommes enfants de Dieu et donc nous sommes héritiers de Dieu. Les biens qui sont ceux de Dieu deviennent notre propriété. Nous y avons droit. Eh oui, nous sommes devenus donc héritiers du ciel. Le baptême nous rend capables de participer à ce bonheur qui est le bonheur même de Dieu. Nous sommes adaptés, si on peut dire, à cette fin surnaturelle. Le baptême nous donne accès, nous donne droit. Le baptême nous donne droit, véritablement, au royaume de Dieu. Ce royaume de Dieu devient le nôtre. Nous sommes ses enfants, donc son royaume devient le nôtre aussi. En vérité, disait notre Seigneur à Nicodème, s'il ne renaît de l'eau et de l'Esprit Saint, ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Et celui qui est renaît, qui est né de l'eau et de l'Esprit Saint, lui peut entrer dans le royaume de Dieu. Il devient son propre royaume. Ou bien encore, quand il envoie les apôtres baptisés, prêcher, qui aura cru et aura reçu le baptême sera sauvé. Sera sauvé. Et qu'est-ce que c'est que le salut? Eh bien, c'est l'entrée en possession des biens même de Dieu. C'est cela le salut. Tu es fils, dit saint Paul aux Galates, et si tu es fils, tu es héritier par la grâce de Dieu. Ou bien encore aux Romains, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers de Dieu et co-héritiers du Christ. C'est normal, si nous sommes enfants, un enfant hérite normalement des biens de son père. C'est tout à fait normal, c'est tout à fait logique et légitime. Et donc nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers du Christ. Béni soit Dieu qui nous a régénérés par le baptême pour l'espérance d'une vie sans fin, pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir, qui est réservé dans les cieux pour nous. Vous devez en être transportés de joie. Supposez même qu'il faille que pour un temps vous soyez attristés par diverses épreuves. C'est des choses qui méritent vraiment que, vous voyez, que nous les méditions, cela. Dieu nous a régénérés pour l'espérance d'une vie sans fin, pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir. Voilà. Voilà ce que Dieu nous donne. Voilà ce qu'il nous propose. Voilà ce à quoi il nous donne droit. Et puis nous passons notre temps à nous accrocher aux choses de la terre, à la vie terrestre, etc. Bon, il ne s'agit pas de partir plus vite que prévu, hein, ce n'est pas la question, mais si vraiment nous réalisons ce que nous sommes par le baptême, je suis l'enfant de Dieu. Dieu a un royaume dont je n'arrive pas à soupçonner la beauté, la richesse, etc. Et puis moi, je suis là à m'accrocher à ces biens dérisoires comme ça, et qui passent leur temps à m'échapper en plus. Alors, mais c'est vrai. Bon, il faut un minimum. Hein. Je ne dis pas qu'il faille vivre comme ça, le nez en l'air et les doigts dans les poches, hein, c'est évident. Mais bon, voilà, si vous voulez, c'est notre héritage. Nous ne sommes pas faits pour la terre, nous sommes faits pour le ciel. Nous sommes des êtres d'éternité. Nous sommes des êtres d'éternité. Nous sommes faits pour l'éternité. Alors regardons un peu le ciel, quoi. Et c'est beau, hein. C'est bien qu'on a du mal à le voir. Bon, mais on peut essayer au moins. Voilà, on prend l'évangile, on prend des tas de choses qui nous parlent un peu de Dieu, du ciel, de la sainteté, de ce qui se passe au paradis, etc. Puis pour avoir envie d'y aller un peu plus, quoi. Puis la terre, ben, ma foi, vivement qu'on la quitte. Hein. Quand Dieu voudra, hein, c'est évident. Ma foi, hein. Vous savez, si vous regardez bien. Hein, Il y a tellement plus de gens que nous aimons au paradis que sur la terre. C'est vrai. C'est vrai. Parmi tous les gens que nous aimons au paradis, il y en a des foules, des foules, des foules, des foules, des foules, des kyrielles sur la terre. Bon, il y en a quelques-uns, mais... Bon. Alors, allons au paradis, on sera beaucoup mieux là-haut. Qu'est-ce que vous voulez faire? C'est évident, ça. Et oui, nous sommes héritiers du ciel. Et cet héritage du ciel. Si on comprenait ce que c'est, ce bonheur que Dieu nous propose, qui est son propre bonheur à lui. La joie qui est celle de Dieu, ben voilà celle qu'il nous propose. Le bonheur qui est le sien, la béatitude qui est la sienne, voilà ce qu'il nous propose. Misère. Réfléchissez. Ah, c'est le deuxième, donc bien attaché à la grâce, à l'infusion de la grâce, mais enfant de Dieu, filiation adoptive, l'héritage céleste, bien. Et puis ensuite, il y a d'autres trésors qui sont plus immédiats. Eh bien, c'est tout ce monde des vertus et des dons. C'est ce qu'on appelle le cortège des vertus et des dons qui sont attachés à la grâce. Et chaque fois que la grâce est donnée, et la grâce, c'est pas quelque chose d'isolé, la grâce entraîne avec elle tout un monde, ce monde des vertus et des dons, qui sont des principes surnaturels, des principes d'action. Les vertus, les dons, sont des capacités d'agir selon la grâce, selon la surnature, la capacité d'agir justement en tant qu'enfant de Dieu, et non plus simplement comme des hommes. Des principes surnaturels pour constituer en nous un esprit d'enfant de Dieu, une mentalité, si l'on peut dire, filiale à l'égard de Dieu qui est devenu notre Père, et pour nous faire vivre en enfant de Dieu. Bon, ces principes, vous les connaissez, vous en connaissez quelques-uns. Ce sont les vertus, bien sûr, les vertus infuses, vertus théologales, vertus morales, et... Les vertus théologales, bien sûr, nous en avons déjà parlé autrefois, vous les connaissez, ces trois vertus théologales, la foi qui est l'adhésion à la parole de Dieu, l'adhésion à la révélation de Dieu, et adhésion à la révélation, à la parole de Dieu, non pas parce qu'on est d'accord, non pas parce que ça nous plaît, ou je ne sais pas quoi, mais tout simplement parce que c'est Dieu qui parle. C'est ça la foi, c'est l'autorité de Dieu qui est le motif de notre foi. J'adhère à ce que Dieu dit parce que c'est Dieu qui le dit. Je comprends peut-être pas, c'est étrange, c'est bizarre, c'est difficile à comprendre, mais c'est Dieu qui parle. Bon, c'est tout, Dieu ne peut pas se tromper, Dieu ne peut pas me mentir, donc je crois. Oui. C'est une confiance, on a confiance dans l'autorité, dans la sainteté, dans la sagesse, la vérité de Dieu, bien sûr, la foi. L'espérance, eh bien, c'est cette confiance justement de l'enfant, l'enfant qui fait confiance à son père, enfin, mon père même. Mon père ne peut pas me vouloir du mal. Et donc j'ai confiance en lui, je lui fais confiance. Et même s'il y a des épreuves, même si parfois il me secoue un peu, mais c'est pas pour m'embêter qu'il fait ça. C'est pour me secouer peut-être, mais parce qu'il faut redresser les choses, c'est pour me conduire au but, quoi, simplement, c'est pour m'aider, venir à mon aide. L'espérance, oui. Et je sais bien que le bon Dieu ne m'abandonnera pas. Je ne peux pas m'abandonner puisqu'il est mon Père. Et moi, normalement, je ne dois pas l'abandonner puisque je suis son fils. Ouais. Et oui, l'espérance. Ouais. Confiance en Dieu. Ouais. Et puis la charité. Ah, bien sûr, la charité qui est la plus grande des trois. Et tout cela vient de Dieu. Ce sont des dons de Dieu. La foi, l'espérance et la charité, ça nous est donné par la grâce, avec la grâce. Chaque fois que nous recevons la grâce, nous recevons la foi, l'espérance et la charité. Pourquoi il ne faut pas dire qu'on manque de foi? On ne manque pas de charité, on ne manque pas de foi. Si je manque de foi, ça veut dire que le bon Dieu ne m'en a pas donné assez. Mais non, non, non. C'est faux ça. Je ne manque pas de charité. Je manque à la charité, peut-être. C'est moi qui n'utilise pas la charité qui est en moi. Voilà, d'accord, qui l'enferme, qui la laisse pourrir, ou je ne sais pas quoi, peut-être. Mais elle est en moi, la charité. Et ça, c'est vrai, ça. Sauf si je fais un péché mortel, bon, auquel cas elle s'en va. Mais la charité est là ou elle n'est pas là. Et si j'ai la charité, eh bien, ma foi, à moi de m'en servir, à moi de l'utiliser, cette charité. C'est pas toujours facile, c'est vrai ça, mais je ne manque pas de charité. Et ça serait la faute du bon Dieu si j'en manquais. Ça veut dire qu'il ne m'en a pas donné assez. Et non, on sait donc, pouf. Le bon Dieu ne marchande pas ses dons. Il nous en donne même plus qu'on en a besoin, vous savez. Si on utilisait à plein tout ce que le bon Dieu nous a donné, de charité, de foi, d'espérance, pouf, la terre serait belle. Eh oui. Eh oui, cette charité, oui. Ah là là. C'est un monde, la charité. Et saint Paul a essayé de nous en donner un petit, une petite description. Vous connaissez, on a vu cela il n'y a pas très très longtemps, je crois. Hein, c'est un dimanche, il y a quelques semaines, ce qu'on appelle l'hymne à la charité dans la première épître aux Corinthiens, au chapitre 13. Ouais. Très belle épître, et qui est un peu déroutante. On dit, j'en suis loin de tout ça. Eh bien oui, on en est tous très loin, mais enfin, ça c'est la perfection de la charité. Celui qui vraiment, vous voyez, utilise à plein la charité qui est en lui, bien voilà un petit peu le résultat que ça doit donner. Ouais. Bon, vous connaissez ce... Vous l'avez entendu plusieurs fois, je ne sais combien de fois. La charité est patiente. C'est par là que ça commence. Ouais. La charité est patiente. Elle est bénigne. Elle est bonne. La charité n'est point envieuse. Elle n'est point inconsidérée. Elle ne s'enfle point d'orgueil. Elle n'est point avide d'honneur, elle ne cherche point son intérêt, elle ne s'irrite point, elle ne tient pas compte du mal. Elle ne prend pas plaisir à l'injustice, elle se réjouit de la vérité, elle souffre tout, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. C'est un monde, hein? Eh oui, si vous voulez quelques explications un peu, saint Thomas d'Aquin a fait un très beau commentaire de cette épître et... En gros, là, ce qu'il nous dit sur cette charité, d'abord, vous voyez, saint Paul énumère les deux caractéristiques fondamentales de la charité, c'est la patience et la bonté. Et la patience qui supporte les maux, supporte les difficultés, les maux, les souffrances, etc. Bon, ça c'est la patience. Et ensuite, la bénignité. La bénignité, il faut être bénin et bénigne. Voilà, il faut être bénin. La bénignité, c'est le bien qui se répand. Vous voyez, c'est répandre, communiquer aux autres le bien que l'on possède. Voilà ce que fait la charité. D'un côté, elle est patiente, elle supporte le mal, et d'un autre côté, elle cherche à répandre le bien qui est à elle. Voyez, voilà. On essaie un petit peu de donner le bien autour de soi. Et ça, c'est les deux pôles, si l'on peut dire, de la charité. Ouais. Communiquer le bien, oui. Mais d'abord, supporter le mal, voilà. Sans en faire aux autres. Et tout d'abord, donc, saint Thomas d'Aquin examine, donc, il suit un petit peu l'ordre de ces caractéristiques-là de la charité. Il dit que d'abord, précisément, la charité, elle fait éviter le mal. Ça, c'est la première chose à faire. C'est sûr que la charité ne peut pas faire le mal. Elle évite le mal le plus possible. D'abord, le mal contre le prochain. Alors, c'est pourquoi non émulatur, l'envie, hein, l'envie, une sorte de jalousie, concurrence un petit peu, ouais. Voilà, on envie un peu le bien de l'autre, et si on pouvait même, si on peut lui retirer le bien qu'il a, ouais, pour se l'approprier, ça serait pas mal ça. On le fait peut-être pas, mais ça grouille là-dedans, hein. Mais oui, l'envie, non émulatur, mais non. Ça, c'est dans le désir, vous voyez. Donc, la charité fait éviter le mal d'abord dans le désir. Et puis ensuite, même dans les faits, dans l'acte. Donc, la charité ne fait pas le mal, non agit perperam. Vous voyez, c'est l'action mauvaise. Donc, elle ne fait pas le mal en plus. Non seulement elle n'est pas envieuse, mais elle ne fait pas le mal. Bien. Ça, c'est la première chose. Et ensuite, même contre soi-même, attention, hein, la charité, elle fait éviter le mal pour soi-même. Elle essaie un petit peu de remettre de l'ordre dans nos passions, toutes les passions désordonnées qui sont en nous et qui nous font du mal. Toutes ces passions qui sont des filles de l'orgueil. Vous voyez, par exemple, la charité non inflatur. Elle ne se gonfle pas. Ça nous fait du mal de nous gonfler. Parce qu'un jour, on éclate. Alors, non, c'est l'humilité. Voilà, la charité, donc, elle ne se gonfle pas. Non, elle reste humble. Voilà. Bon, je suis ce que je suis. Et je m'aime tel que je suis. Et je n'essaie pas de me faire du cinéma à vouloir me faire croire que je suis meilleur que ce que je suis. Non, je suis ce que je suis. Bon, c'est déjà pas mal. Ça pourrait être mieux. Mais enfin, voilà. Bon, oui. Donc, c'est ce calmer un petit peu les passions, tout simplement, hein, s'aimer tel que l'on est, hein, donc ne pas se gonfler dans une sorte de suffisance vaniteuse, vous voyez, creuse, mais oui. Elle n'est pas ambitieuse, non est ambitiosa, et l'ambition, vouloir aller plus haut que... comment on dit ça en bon français, là, bon, enfin, vous m'avez compris, quoi, voilà. Voilà, rester à son niveau, simplement, bon, vouloir pouvoir faire des choses qui ne sont pas à notre portée. Bon, ben, il y en a peut-être qui sont plus doués que moi, mais tant mieux pour eux, tant mieux pour le bon Dieu, tant mieux pour la terre, et tout va bien. Moi, je fais le bien dont je suis capable, et puis ça va bien, ouais. Non, il ne faut pas être ambitieux dans ce sens-là, ouais. Il faut avoir le désir de faire des grandes choses, mais dans la mesure de ses possibilités, de ses capacités, pas plus. Pas plus. Et donc, elle n'est pas ambitieuse. Elle n'est pas cupide. Non querit que soit la cupidité, une sorte de dureté pour réclamer toujours son bien. Ça, c'est à moi. Violent. Enfin, bon. Non querit que soit cette cupidité. Ouais, c'est toujours. Admirez-moi, aimez-moi. Bon. Non irritatur. Elle ne s'irrite pas. Là, c'est la colère. Ouais. Oui, tous ces mots qui agitent notre âme et qui parfois bien se traduisent à l'extérieur et font du mal soit à nous-mêmes, soit aux autres. Hein. Mais la charité, elle calme tout ça. Elle met de l'ordre un peu dans tout ça, elle pacifie tout ce monde-là. Ouais. Elle ne... Oh là là, oui. Non cogitat malum, elle ne médite pas le mal. Oui, c'est où là, attends-moi un petit peu. Si je pouvais, toi, attends, la récréation, tu vas voir, je te casse la figure ou je ne sais quoi. Enfin, on en fait comme ça, on en fait des projets de vengeance qu'on ne mettra jamais peut-être en œuvre. Hein. Mais alors, tout ce petit monde intérieur qui est mauvais et qui nous fait à nous beaucoup plus de mal qu'aux autres. Bon, grâce à Dieu, on passe rarement, j'espère du moins, on passe rarement à l'acte, mais parfois ça peut arriver. Et non, ouais, on médite le mal. Hein. Si je pouvais me venger, si je pouvais lui faire du mal, si je pouvais le faire souffrir. Et alors, donc, elle ne médite pas le mal. Et elle ne se réjouit pas du mal. Hein, c'est terrible, ça c'est affreux. Ça. Se réjouir du mal. Non gaudet super iniquitate. Se réjouir du mal. On voit quelqu'un qui est dans la purée, qui est dans le pétrin. Eh bien, tiens, bien fait pour lui. Tiens, bon. C'est peut-être un bandit, c'est possible, mais c'est pas à moi le punir et je ne peux pas me réjouir du malheur d'un autre. Certainement pas. Je peux me réjouir de la conversion dont ce malheur sera peut-être l'occasion. Ça, oui, bien sûr. Mais pas du malheur, c'est pas de la souffrance de quelqu'un, on ne peut pas se réjouir. C'est affreux. Ah. Et oui, hein, tout un monde, le cœur de l'homme. Et c'est là que la charité est bien nécessaire. Et c'est pourquoi le bon Dieu nous la donne, justement, pour essayer un petit peu de nettoyer tout ça. Hein. C'est tellement vilain. Hein. Et il la donne dès le baptême, justement. Il faut donner le baptême très tôt, justement, pour que ça commence son travail de purification très, très tôt. Parce qu'il y en a du travail à faire. Hein. Alors, si on attend qu'il ait 40 ans pour donner le baptême, je ne dis pas que c'est perdu, c'est jamais perdu, c'est évident, mais hein, c'est plus difficile en tout cas. Et ensuite, la charité, donc, vous voyez, elle fait éviter le mal, et ensuite, elle fait réaliser le bien. Alors, c'est le côté positif, voyez, la bénignité de la charité, elle fait réaliser le bien envers le prochain d'abord, envers le prochain, con gaudet veritati, elle se réjouit de la vérité et du bien, se réjouir du bien. Se réjouir de la vérité, c'est tellement beau. Même si c'est un autre qui fait le bien, mais Dieu gratias. Alors que la jalousie, on dit, non, c'est moi qui aurais dû le faire à sa place. Mais si le bien est fait, qu'est-ce que je demande de plus? C'est ça la charité. Peu importe par qui le bien est fait, peu importe qui rend gloire à Dieu, du moment que Dieu est glorifié. Dieu gratias. Eh oui. Donc la charité se réjouit de la vérité et du bien, et elle supporte les défauts des autres. Omnia soufferte, elle supporte tout. Omnia soufferte, elle supporte tout. Les autres, ils sont ce qu'ils sont. Je suis ce que je suis, ils me supportent, je les supporte, et puis avec ça, ben, on va au paradis tous ensemble. Eh oui, tout supporter des autres. Ben, excusez-moi. On revient un petit peu à la patience du début, ouais, et c'est vrai qu'elle est toujours là, cette patience, hein. C'est un travail. Et puis enfin, les derniers actes de la charité là, que nous décrit saint Paul, là ça s'adresse à Dieu cette fois, vous voyez, La charité considère d'abord le prochain, soi-même, les rapports entre le prochain et soi-même, puis enfin, eh bien, elle s'achève en Dieu. Oui. Omnia credit, omnia sperat, omnia sustinet. Elle croit tout. On revient à la foi, tout simplement. Oui. Omnia credit, eh bien, c'est le retour vers Dieu. Je crois tout ce qui vient de Dieu. Omnia sperat, elle espère tout de Dieu, bien sûr. Et omnia sustinet, elle soutient tout. C'est la persévérance. Oui. Elle accepte tout ce qui vient de la main de Dieu. Oui. Elle croit tout ce qui vient de Dieu. Elle espère tout de Dieu. Elle attend tout de Dieu. Et elle accepte, elle supporte, elle endure un petit peu bien tout ce qui est ménagé par la providence. Voilà ce que fait la charité. Oui. Et tout cela, nous avons en nous la capacité de le faire. Et oui, nous avons la charité depuis le jour de notre baptême. Ouais. Et nous l'avons reçue encore chaque fois que nous avons reçu la grâce, chaque fois que nous avons reçu une communion, chaque fois que nous avons reçu une absolution, le baptême, chaque fois qu'on a reçu la grâce, eh bien, on a reçu un surcroît de charité. Oui, que la terre serait belle ainsi, si vraiment on laissait faire la charité en nous. Et oui, voyez comme il s'aime. Voilà, ça c'est les trois premières vertus, vertus théologales, bon, vous connaissez cela un petit peu quand même. Et ensuite, les vertus morales infuses, ce qu'on appelle les vertus morales, qui elles sont infuses. Hein. Vous voyez, tout cela, encore une fois, nous est donné par Dieu au baptême. Vertus morales infuses, les quatre vertus morales cardinales, justice, prudence, force et tempérance. Vous voyez, ces vertus morales qui, elles, eh bien, vont nous aider à régler un petit peu, à ordonner notre vie quotidienne, vous voyez, notre usage des créatures, eh bien, selon la volonté de Dieu, selon les données de la foi, en vue de notre fin surnaturelle, vous voyez, selon l'ordre de la grâce et de la charité, ouais, vertu morale. Et puis les dons du Saint-Esprit, les sept dons du Saint-Esprit, vous les connaissez, bien sûr, l'intelligence, la sagesse, la science, le conseil, la piété, la crainte et la force. Et tout cela, alors les dons du Saint-Esprit, c'est un petit peu différent. Hein. Les vertus morales, les vertus, disons, sont des capacités d'agir, hein, que nous avons en nous. Avec ça, bien, je peux agir moi-même, très bien. Alors que les dons du Saint-Esprit, ce sont des capacités d'être mu par le Saint-Esprit. Et c'est un petit peu différent. Les dons du Saint-Esprit, c'est des choses qui me sont données et qui vont permettre au Saint-Esprit de me radiopiloter, si j'ose dire, vous voyez, ou me téléguider un petit peu, vous voyez, d'agir un petit peu pour me faire agir. Mais là, l'action vient de Dieu par le don du Saint-Esprit, alors que dans les vertus, c'est moi qui agis. Bon, petite différence. Vous voyez. Les dons du Saint-Esprit, bon, c'est l'image qu'on prend souvent, c'est comme des petites antennes. Voilà. Nous avons sept petites antennes, vous voyez. Non pas sur la tête, grâce à Dieu, mais invisible sur l'âme, vous voyez, qui permettent au Saint-Esprit, eh bien, d'envoyer ses inspirations, ses influences. Ouais. Et les auteurs, les théologiens, vous voyez, tout ce petit monde, ce monde intérieur, des dons, des vertus, etc. Ouais. Les théologiens aiment faire des rapprochements entre ces vertus, ouais, ces dons, etc., qui sont très, très justes et très... Je crois qu'il est profitable de méditer un petit peu. Ouais. Par exemple, ouais, le don d'intelligence qui perfectionne donc notre intelligence pour mieux connaître la vérité, mieux pénétrer la vérité. Le don d'intelligence, eh bien, est connexe à la vertu de foi. Ouais, ça va ensemble, vous voyez, il perfectionne un petit peu, il aide un petit peu l'exercice de la vertu de foi. La foi, c'est l'adhésion à la vérité, le don de science, d'intelligence, pardon, me permet de mieux saisir, mieux pénétrer les vérités de foi. Le don de sagesse, lui, eh bien, est connexe à la charité. Le don de sagesse, vous voyez, il perfectionne la vertu, il facilite l'exercice de la charité. Ouais. Le don de sagesse, c'est le goût, si l'on peut dire, des choses de Dieu. Le don de sagesse, c'est le recta sapere, oui, goûter les choses droites, les choses saintes, oui, avoir vraiment le goût des choses de Dieu. Et donc, c'est sûr que c'est la charité, un petit peu, oui, ça accompagne la charité. Le don de science, lui, nous fait considérer les choses créées, les choses de la terre. Hein, donc, il nous fait mieux comprendre, le don de science, mieux comprendre l'ordre des choses créées, leur finalité, leur raison d'être, ouais, leur fonctionnement, ouais, selon la volonté de Dieu. Donc, ouais, une vue surnaturelle de la création, plus exacte, don de science. Et donc, lui aussi, connexe à la vertu de foi. Don de science, vertu de foi, ouais, un regard de foi posé sur la création, aidé par le don de science. Le don de conseil, bon, le don de conseil, ça va à peu près, c'est facile. Celui-là, il aide le don de la vertu de prudence. Don de conseil, vertu de prudence, c'est un petit peu la même chose. Hein. Du moins, le but, l'effet est à peu près le même. Hein. C'est pour mieux juger les actions à faire. Qu'est-ce que je dois faire? Donc, vertu de prudence et don de conseil. Tout cela, vous voyez, ces quatre premiers dons, l'intelligence, sagesse, science et conseil, perfectionnent un peu notre intelligence. Vous voyez, c'est pour la perfection de notre intelligence. Alors que les trois autres dons, eux, perfectionnent plutôt la volonté. La volonté, le don de piété, c'est relativement au culte de Dieu. Relativement au culte de Dieu, c'est cet esprit filial. Vous voyez. Le don de piété, c'est très très important pour l'enfant de Dieu. Don de piété, piété filiale, vous voyez. Confiance, tendresse, vous voyez, pour notre Père du Ciel. Et qui aide la vertu de justice. La vertu de justice qui nous fait rendre à chacun ce qui lui est dû, et notamment à Dieu, l'honneur et le culte qui lui sont dus. Oui, donc, piété, justice, cela va ensemble. Ensuite, contre la crainte du danger, ben c'est la force. Alors là, ça va bien, il y a un don et une vertu, c'est le même. Don de force, vertu de force. Oui, bon. Donc il y a la vertu de force en nous, et puis le don de force. Hein. Le Saint-Esprit vient renforcer, encore un petit peu, si l'on peut dire, la vertu de force. Oui. Pour nous armer contre les dangers, contre la crainte du danger, ne pas défaillir devant l'obstacle, ne pas fuir devant le danger. Oui. Et puis enfin, il y a tout ce monde des concupiscences, déréglées, la sensibilité déréglée. Eh bien, c'est le don de crainte, oui, le don de crainte, oui, qui vient mettre de l'ordre un peu dans notre sensibilité déréglée. Crainte filiale, oui, toujours pareil, crainte filiale, la crainte d'offenser. De trahir un peu notre Père, la crainte de ne pas répondre à l'amour de notre Père. Ce n'est pas la peur du Père, on n'a pas peur de Dieu, certainement pas, mais on a peur de l'offenser, on a peur d'être indigne de lui. Ouais. Et ce don de crainte, eh bien, c'est corrélatif avec les deux vertus, lui, alors on l'adapte un petit peu à deux vertus. C'est la vertu d'espérance, d'abord, justement, qui nous fait regarder vers le ciel plutôt que vers les choses de la terre. Et puis la vertu de tempérance, bien sûr, hein, pour un sage usage des biens créés. Vous voyez, tout ce petit monde qui est en nous, hein, c'est tout un monde. Hein. Tout un monde. Vous voyez, c'est bien attaché à l'infusion de la grâce, l'adoption divine, l'héritage céleste, les vertus et les dons. Et puis encore un autre don. On n'en finirait plus, tout ça, il y a tellement de trésors dans tout cela. Un autre don qui est attaché à la grâce, à la vertu, à l'infusion de la grâce, et ça c'est peut-être le plus grand des dons que Dieu nous fait, eh bien c'est lui-même. C'est lui-même, c'est la présence divine. L'âme baptisée devient vraiment le temple de Dieu. Et oui, nous sommes habités par Dieu. Dieu fait sa demeure dans l'âme du baptisé. Et ça... Je crois qu'il n'y a pas de don plus grand que Dieu puisse nous faire. Hein. Il nous fait don bien, de lui-même. C'est ce que nous lisions il y a quelques jours, hein, ce très bel évangile de la Samaritaine, hein, ce passage où notre Seigneur eh bien, amène petit à petit cette femme à reconnaître qu'il est le Messie. Et il lui dit, « Si chires donum dei, si tu savais le don de Dieu. » Et ça, je crois qu'on peut le dire à tous les baptisés, « Si tu savais le don de Dieu. » Si nous savions le don de Dieu, il nous donne la grâce, il nous donne sa vie, il nous donne l'héritage céleste, il nous fait de nous ses enfants, il nous donne les vertus, les dons, etc. Et puis ça ne lui suffit pas, il a encore envie de nous donner autre chose, et qu'est-ce qu'il peut nous donner de plus? Eh bien, lui-même. Lui-même.
qu'est-ce qu'il pouvait faire de plus? Dites-moi un peu, moi je ne vois vraiment pas. Qu'est-ce que le bon Dieu n'a pas fait pour nous, hein? Voilà, Dieu fait sa demeure dans notre âme. Là, je dirais, une fois qu'on a dit ça, ben, il n'y a plus qu'à se taire, hein, sous les pieds, c'est de réaliser un petit peu ce que ça veut dire. Hein. Ne savez-vous pas, dit saint Paul aux Corinthiens, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous l'avez reçu de Dieu et que vous n'êtes plus à vous-même? Glorifiez donc Dieu dans votre corps. Et notre corps lui-même, attention, hein, c'est pas seulement notre âme qui est devenue le tabernacle, si l'on peut dire, de la divinité, mais c'est notre corps lui-même, puisque notre corps et l'âme ne sont pas séparés. Notre corps lui-même est devenu le temple du Saint-Esprit. Hein. C'est pourquoi le prêtre fait cette onction de Saint-Crème après le baptême, et c'est pourquoi, par exemple, aussi, nous rendons ces honneurs au corps des défunts. Alors que ce corps est vide, bon, l'âme, elle est ailleurs, mais ce corps, il a été le temple du Saint-Esprit, il a été sanctifié par la présence de Dieu. Quand même, on ne peut pas en faire n'importe quoi. Et donc, on lui rend des honneurs. Bon, c'est peut-être pas grand-chose, c'est un corps qui est mort, mais il a été le temple du Saint-Esprit, et il est destiné à la résurrection, en plus. Alors, voilà. Et oui, notre corps a été consacré à l'hôte divin, à Dieu, justement, qui l'habite par la grâce. Et c'est pourquoi, bien, ce corps ne peut plus servir à un autre usage. Il doit rester en toute occasion, eh bien, le tabernacle, le temple du Saint-Esprit. Attention de ne pas profaner ce tabernacle, si on peut dire. Il faut user de notre corps, eh bien, selon l'ordre, simplement, l'ordre des choses, l'ordre de la nature, c'est évident, selon notre état, c'est clair, ça. Voilà. Et là, tout va bien, tout va bien. Et Dieu nous donne donc non seulement la grâce, et ça, c'est clair, c'est déjà beau, mais en plus, il nous donne l'auteur de la grâce. L'auteur de la grâce, ouais. C'est extraordinaire, cela. Extraordinaire. Hein. Si je suis en état de grâce, je suis habité par la Sainte Trinité. Et tout ce qui se fait, tout ce qui se déroule dans l'éternité de la Sainte Trinité se déroule dans mon âme, se déroule dans votre âme. Voilà. Il n'y a qu'un Dieu. Hein. Et le même Dieu demeure dans toutes nos âmes. Ouais. En ce moment, le Père engendre son Fils. Dans mon âme. Mais c'est vrai. C'est pas une blague, ça, hein. C'est une réalité en ce moment, et c'est un acte éternel. La génération du Verbe par le Père, c'est un acte éternel qui ne cesse pas. Dieu ne peut pas s'arrêter d'engendrer son Fils. Il est en moi, donc en moi, il engendre son Fils. En moi, en ce moment, dans mon âme. Dans mon âme, en ce moment, le Père et le Fils se contemplent, si l'on peut dire, se connaissent et s'aiment. Et de cet amour, eh bien, naît, si l'on peut dire, eh bien, le Saint-Esprit dans mon âme en ce moment. Pas faire de bruit, mais c'est vrai, attention quand même, je ne peux pas faire n'importe quoi quand même, je ne peux pas déranger tout ce petit monde là qui est tellement heureux dans mon âme, je ne peux pas les emmener, je peux pas les emmener n'importe où quand même. Mais vous imaginez la chose un peu, c'est un scandale, scandale. Et si j'emmène la Sainte Trinité comme ça, je ne sais pas trop où, moi, voir tel spectacle ou dans tel endroit pas très très propre ou très honnête, qu'est-ce qu'il va faire le bon Dieu? Il va s'en aller. Hein. Ouf, moi je ne rentre pas, moi. Ben, c'est normal, mettez-vous à sa place, dites. Oh, quand même. Il ne faut pas le déranger, le bon Dieu. Et alors, si on le dérange un peu trop, il s'en va, lui. Oh, d'accord, je vais voir quelqu'un d'autre. C'est dommage. Et oui, mais c'est vrai tout ça, hein. C'est peut-être un peu imagé, tout ce qu'on veut, mais c'est vrai. C'est vrai, et oui, et oui. Nous sommes des Christophores, disaient les anciens, Christophores. Hein, nous portons le Christ, hein. Et oui. Voilà, qu'est-ce qu'on peut dire encore sur ce baptême? Quels sont les trésors, hein, qui sont inclus dans la grâce de notre baptême? Il y a encore toute cette, ce qu'on peut appeler la fécondité surnaturelle. Fécondité, la fécondité du baptisé, vous voyez, tout ce qu'il peut produire comme fruit, justement, voyez, par la grâce. La grâce, c'est un germe de sainteté, et la grâce, eh bien, va produire tout un tas de fruits dans notre âme. Et notre Seigneur l'a dit à ses apôtres, « Ceux qui glorifient mon Père, c'est que vous portiez des fruits et que vous soyez mes disciples. Oui, portez des fruits. Et quels sont ces fruits que nous pouvons porter? Bien, ce sont tous ces fruits surnaturels à l'égard de Dieu, bien sûr, d'abord, l'estime qu'on peut exprimer à Dieu, la vénération qu'on lui porte, qu'on lui témoigne, l'amour qu'on lui manifeste, l'obéissance. Voilà un des fruits de la grâce, l'obéissance, l'accomplissement de la volonté de Dieu. L'accomplissement de la volonté de Dieu qui est un acte d'amour. Obéir, c'est un acte d'amour. Si j'obéis à Dieu, c'est que je l'aime, c'est que j'ai confiance en lui. Je sais qu'il m'aime, je lui fais confiance, et donc je fais ce qu'il me demande. Ce n'est pas toujours facile, ça c'est bien évident, mais je veux obéir au moins. Ce n'est pas difficile d'obéir. Quand on aime véritablement le bon Dieu, c'est facile de lui obéir. Et oui, ce dévouement justement que l'on peut mettre à, eh bien, à la cause de Dieu, à la cause de Jésus-Christ, à la cause de l'Église, etc. Oui, bon, c'est une générosité que l'on met justement dans la vie chrétienne. Ça, c'est un fruit de la grâce. C'est pas naturel, c'est pas normal, ça. Il y a tous ces sacrifices qu'on peut faire, cette générosité que l'on peut déployer. C'est pas naturel, tout ça. D'où ça vient? Ça vient de lui. Ça vient de la grâce. C'est parce que nous avons la grâce, oui. Et oui, et tout ce que l'on peut, justement, oui, tout ce que l'on peut faire de bien, quand je suis en état de grâce, eh bien, tout cela est surnaturalisé et atteint une dimension extraordinaire que je ne soupçonne peut-être pas. Oui, la gloire que je rends à Dieu, peut-être, par mes prières. Une petite prière, toute simple. J'ai l'impression que ce n'est pas grand-chose que j'ai fait, mais je suis en état de grâce. Et la grâce donne à cette prière que je fais une ampleur que je ne connais pas. Oui. Tout cela vient de lui, retourne à lui, et c'est extraordinaire, cela. Oui. Toutes les œuvres bonnes que je peux faire également, si je suis en état de grâce, mais elles ont une répercussion tout à fait différente de celle qu'elles auront si je les fais sans être en état de grâce. Une œuvre bonne, faite en état de grâce, elle est méritoire pour le ciel, méritoire pour le salut. Mais si je ne suis pas en état de grâce, elle n'est pas méritoire. Vous voyez un peu la différence, oui, entre une œuvre bonne, la même œuvre bonne, faite par quelqu'un qui n'est pas en état de grâce et par quelqu'un qui est en état de grâce. C'est la grâce qui est la cause du mérite, hein, attention, hein, la grâce qui est la cause du mérite. Voilà, ça suffit. Le fait d'être en état de grâce, une œuvre bonne, ben, ça fera du bien peut-être aux autres, mais ça ne rendra pas gloire à Dieu. Mais faite en état de grâce, elle rendra gloire à Dieu. Et elle sera méritoire. Et ça, ça vient du mérite du Christ, des mérites du Christ dont je deviens participant par le baptême et par la grâce. Ouais. Faut pas se tromper, hein. C'est la grâce qui est le principe du mérite. Bien souvent, on croit que c'est la difficulté, la souffrance. Plus c'est difficile, plus c'est méritoire. Non, mes pauvres enfants. Oui, parfois, ça se trouve, effectivement, que les œuvres bonnes sont parfois difficiles, parce que, bon, ça c'est vrai. Mais ce n'est pas le fait qu'elles soient difficiles qui les rend méritoires, c'est le fait d'être faites en état de grâce. Ah oui, c'est la grâce qui est la source, la cause du mérite. Voilà. Et tout. Si la chose est facile, ben, ma foi, ça n'empêchera pas d'être méritoire, heureusement. Parfois, quand même, c'est pas trop difficile. Il y a d'autres fois, c'est plus difficile. Bon, mais peu importe, facile ou pas facile, c'est la grâce qui la rend méritoire. Parce que le mérite vient du Christ. C'est lui qui a tout mérité, et nous sommes co-méritants, si l'on peut dire. Nous participons au mérite du Christ, mais c'est lui qui a mérité. Et le fait d'être incorporé au Christ, de posséder en nous la vie du Christ, de posséder en nous la grâce, eh bien, nous permet de participer au mérite du Christ. Voilà. Tout simple. Tout simple. Alors, vous voyez un petit peu, à ce moment-là, la fécondité, hein, qui devient celle du baptisé, ouais, tous ces fruits qui sont produits par sa vie, par ses vertus, ses bonnes actions, etc. Ouais. Ouais, c'est tout un monde, hein, cette vie de la grâce. Hein, on n'en finirait pas. Ouais. Après, je vous laisse un peu prolonger et méditer tout cela vous-même. Ouais. Et c'est un monde qui nous invite justement à bien réfléchir, vous voyez, à ce devoir que nous avons, notamment vis-à-vis des enfants, hein, vis-à-vis du baptême des enfants. Hein, ça, c'est clair. Hein, baptême des enfants qu'il ne faut pas différer sans raison qu'il ne faut pas différer ça. Il n'y a pas de raison, de toute façon, de différer un baptême. Il n'y a pas de vraie raison. Ouais. Non, c'est... Bien sûr, on ne sait pas, ça, nous ne savons pas ce qui se passe dans l'âme d'un enfant, etc. Mais tout ce travail qui se fait dans, qui se fait sous l'action de la grâce, il n'y a pas de raison de le retarder. Pourquoi ? Tout ce retard qui est apporté, c'est un travail qui sera à faire après. Pourquoi attendre ? Ouais. Il faut donner le baptême à l'enfant le plus tôt possible. Voilà. Comme ça, la grâce commence à travailler déjà son âme, voilà, à redresser des petites choses. On ne s'en aperçoit pas, mais le travail se fait. La grâce, elle travaille toute seule. Après, quand l'enfant sera en âge, bon, très bien, il va commencer peut-être lui aussi à travailler, à aider le travail de la grâce. Mais déjà, avant même qu'il ait l'usage de la raison, la grâce va commencer à travailler. C'est magnifique, c'est ce qui se passe dans l'âme d'un enfant baptisé. Ouais. C'est pourquoi il ne faut pas différer. Hein, ça, il n'y a pas eu aucune raison de différer le baptême d'un enfant. Ouais. Bon, non seulement j'y ai sous le rapport du salut de son âme, mais même ouais, pour cette sanctification de l'âme de l'enfant, la sanctification de l'âme, eh bien, elle se fait déjà sans que l'enfant s'en rende compte. Elle se fait déjà en nous, même parfois, sans que nous en rendions compte. Le Saint-Esprit nous sanctifie au-dedans de nous. Il travaille en nous, parfois, sans que nous le sachions. Alors, parfois, nous en avons conscience, nous accompagnons, nous travaillons avec le Saint-Esprit, mais parfois, le Saint-Esprit, je veux dire, travaille tout seul en nous. Bon, heureusement, parce que... Tout seul, on ne peut pas arriver à faire tout ce qu'il y a à faire. Alors, il en fait une partie dans notre âme et il faut donner la grâce à l'enfant le plus tôt possible. Et c'est pourquoi le mal le plus grand qui puisse arriver à un être, justement, c'est de perdre la grâce. Le mal le plus grand, ce n'est pas le sida, ce n'est pas la mort, ce n'est pas la souffrance. Bon, ce sont des mots, tout ça, c'est vrai, mais ce n'est rien, c'est dérisoire. Dérisoire à côté de ce mal gravissime qui est la perte de la grâce. Il n'y a rien de plus grave que de perdre la grâce. C'est fini. C'est le désert dans une âme. Ouais. Un carnage comme ça qui est opéré dans une âme. Une âme qui est toujours l'enfant de Dieu parce qu'elle garde le caractère du Christ. Elle garde donc cette ordination à l'éternité. Mais c'est fini. Il n'y a plus rien. Elle ne peut plus. Elle n'est plus capable de marcher vers le ciel. C'est fini. Elle est déserte. Elle est abandonnée. C'est terrible ça. Terrible. Et enfin, il y a bien des choses à dire là-dessus aussi. Vous voyez, cette œuvre accomplie dans une âme par le baptême, et saint Thomas d'Aquin n'hésite pas à dire, et c'est beau, il n'hésite pas à dire bien que l'œuvre du baptême est plus grande. C'est une œuvre qui est plus grande que celle de la création. C'est quand même pas mal la création, hein, quand on y pense. Hein. La lumière, etc. Le soleil, la terre, l'eau, tout ça, les poissons, tout ce qu'on peut imaginer, tout ce monde-là. C'est immense, hein, cette œuvre de la création. Mais c'est rien. Rien à côté de l'œuvre du baptême. Eh oui. S'il s'agit, dit saint Thomas d'Aquin, donc, s'il s'agit... de la grandeur du résultat obtenu, donc l'effet, le résultat obtenu, eh bien, sous cet aspect, la justification du pécheur, donc ce qui se réalise au baptême, qui a pour terme le bien éternel et la participation à la nature divine, est une œuvre supérieure à la création du ciel et de la terre, dont le terme est le bien de la créature qui passera. C'est sûr que, c'est au plan de la puissance, bien sûr, c'est d'une puissance colossale, la création du monde, hein, ça c'est bien évident, mais tout cela, c'est destiné à quoi ? C'est pas destiné à l'éternité, ce n'est pas destiné à la vie, à la béatitude en Dieu, etc. Donc ça a infiniment moins de valeur qu'une âme baptisée. Une âme baptisée a une valeur qui dépasse infiniment tout l'ordre créé. Une âme en état de grâce a beaucoup plus de valeur que toute la création réunie. C'est vrai, ça ? Par la grâce. C'est la grâce qui donne sa valeur à cette âme. Ce n'est pas l'âme elle-même, c'est la grâce. Parce que la grâce, c'est Dieu. C'est Dieu. Et donc c'est clair que à ce moment-là, ça dépasse infiniment tout l'ordre créé. Et même saint Thomas d'Aquin va encore plus loin. Méfiez-vous. Il n'a pas peur parfois des formules audacieuses, mais qui sont vraies. Hein. Et donc non seulement vous voyez, le baptême dépasse la création, hein, quant à la grandeur de l'œuvre, la grandeur de l'effet, du résultat obtenu. Hein. Mais même saint Thomas d'Aquin trouve que l'œuvre du baptême est supérieure à la glorification de l'âme. Il va loin quand même, hein. Il va fort. Et oui, mais c'est logique, quoi. Et vous allez voir. Vous serez d'accord avec lui après. Mais de grandeur absolue, si on considère la chose en elle-même, le don de la gloire est plus grand que le don de la grâce qui justifie l'impie. Et dès lors, la glorification des justes est une œuvre plus considérable que la justification de l'impie. Bon, c'est clair, si on regarde la chose en elle-même, la gloire. La gloire de Dieu, c'est beaucoup plus que la grâce qui est donnée aux baptisés. Ça, c'est bien vrai. Bon. Mais de grandeur relative. Si on considère les choses un petit peu l'une par rapport à l'autre. Le don de la grâce qui justifie l'impie au baptême l'emporte sur celui de la gloire qui béatifie le juste. Pourquoi? Attention, accrochez-vous bien. Ça va jusqu'ici, vous suivez? Le don de la grâce l'emporte sur le don de la gloire. Oui. Voilà. Pourquoi? Parce que le don de la grâce surpasse beaucoup plus l'état de l'impie, qui ne méritait que châtiment, que le don de la gloire ne surpasse la dignité du juste, qui par le fait qu'il est justifié, se trouve digne de la gloire. Vous avez compris? Facile, hein? L'âme en état de grâce, ben, ma foi, rentrer dans la gloire, il n'y a qu'une chose à faire, c'est mourir. Ça se fait automatiquement. La grâce nous prépare à la gloire. On dit que la grâce est le germe, la semence de la gloire. Donc, pour le bon Dieu, introduire un juste dans sa gloire, bon, c'est beau, mais c'est facile. Ouais, ça ne demande pas à dire un acte de puissance extraordinaire, c'est dans l'ordre des choses. Alors que le don de la grâce, il faut aller le chercher dans dans son abîme de misère et de péché. Ouais. Donc il y a presque contrariété. Voilà une âme qui est en état de péché et en état de révolte, et je la mets dans l'état d'amitié, dans l'état de grâce. Ouh, ça c'est autre chose. Ouais. Et oui, donc il est plus grand pour Dieu. De justifier un impie, de donner la grâce à un pécheur, que d'introduire un juste dans son paradis. Alors le bon Dieu ne nous suffit pas. Il y a un psaume qui dit cela. Dieu est la part de mon héritage. Dieu est la part de mon héritage. Voilà mon héritage, c'est Dieu. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Ah, on pourra en dire bien des choses là-dessus, mais enfin, il vaut mieux s'arrêter. Oui, je suis raisonnable, hein. Sur mes vieux jours, je deviens très raisonnable. Oui.